Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Laporte-Daube, je suis psychologue et je vous propose une série de podcasts sur le thème des violences sexuelles. Nous allons parler aujourd'hui de trois concepts, trois théories qui ont influencé notre rapport au récit de violences sexuelles sur les enfants et qui continuent d'exercer une influence de nos jours sur les décisions prises pour protéger ou ne pas protéger les enfants. Ces trois théories, des professionnels y font encore référence dans les tribunaux, dans les hôpitaux, dans les commissariats. Il convient donc de les présenter en précisant le contexte historique dans lequel ces trois conceptualisations ont émergé. Il s'agit aussi de confronter ces théories à la méthodologie scientifique pour voir si elles y répondent, si donc elles sont ou non valides. Commençons par la plus ancienne des trois, la théorie du complexe d'Œdipe. C'est parti. Quand il a commencé son travail auprès de femmes hystériques, Sigmund Freud a été frappé par la proportion importante de patientes relatant des incestes. Il a dans un premier temps pris en compte la parole de ses patientes et a créé une première théorie, la neurotica, ou théorie de la séduction. Elle apparaît en 1896 dans les études sur l'hystérie, publié avec Breuer. Selon ces deux auteurs, l'origine des psychonévroses serait une séduction ou une agression sexuelle dont les patients auraient été victimes au cours de l'enfance, avant la puberté. Mais Freud a rapidement désavoué ce premier travail en abandonnant sa neurotica, donc cette théorie de la séduction, en 1897, donc seulement un an après. Ce serait là, pour de nombreux spécialistes, la véritable naissance de la psychanalyse, centrée sur la théorie des fantasmes et sur le fameux complexe d'Œdipe, qui est un concept central de la psychanalyse freudienne. Alors, qu'est-ce que c'est le complexe d'Œdipe? D'après Freud, les enfants auraient des fantasmes inconscients, notamment celui d'éliminer le parent de même sexe, considéré comme un rival, et d'être dans une relation amoureuse avec le parent de sexe opposé, d'où la référence au mythe grec d'Œdipe. Ce complexe apparaîtrait vers 5 ans environ, puis il serait remis au travail à l'adolescence, à la faveur des transformations pubertaires. Alors là, un élément de contexte historique est à prendre en compte. Il faut savoir que le père de Sigmund aurait été incestueux avec un frère et des sœurs de ce dernier, qu'il a évoqué dans des correspondances. Aussi, on peut faire l'hypothèse que Freud aurait renoncé à sa neurotica pour protéger l'image paternelle intériorisée, peut-être en tout cas, parce que reconnaître la réalité des agressions incestueuses subies par ses patientes impliquait pour lui de reconnaître aussi les crimes commis par son propre père, ce qui était peut-être insupportable pour lui. Bien sûr, c'est simplement une hypothèse. Mais l'essentiel est ailleurs. La question qui se pose la plus fondamentale est la suivante. La théorie du complexe d'Œdipe est-elle scientifiquement prouvée? Je rappelle que la psychologie est une discipline scientifique. Il faut donc pouvoir s'appuyer sur la démarche scientifique pour avancer des hypothèses consistantes, convaincantes. Et le problème avec le concept de complexe d'Œdipe est qu'il souffre d'un écueil de taille. Cet écueil, c'est le biais de confirmation. Alors le biais de confirmation, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, en repartant de cet exemple, si on observe qu'un enfant est proche du parent de sexe opposé et dans la compétition avec le parent de même sexe, la théorie du complexe d'Œdipe est confirmée. Mais si on n'observe pas ce genre de positionnement chez l'enfant, on en déduit que l'enfant a un problème qui l'empêche d'entrer dans le complexe d'Œdipe. Pile je gagne, face tu perds. La théorie précède l'observation, façonne cette observation. La croyance dans l'existence de ce complexe d'Œdipe est irréfutable. Or, pour reprendre les conclusions du célèbre philosophe Karl Popper, une théorie qui ne peut pas être réfutée relève de la croyance et non de la connaissance scientifique. Donc, en raison de ce biais de confirmation, le complexe d'Œdipe ne peut pas être considéré comme un concept scientifique. Il relève tout simplement de la croyance. Pourtant, cette théorie du complexe d'Œdipe et des fantasmes infantiles a connu un succès considérable à travers le monde entier. En France, on peut dire qu'elle est rentrée dans la culture, que de nombreux parents la considèrent comme une vérité scientifiquement établie et non comme une simple théorie parmi d'autres. Le principal problème que pose cette théorie est de supposer l'existence de fantasmes infantiles. De ce fait, la parole de l'enfant est accueillie avec suspicion, avec même souvent beaucoup de réserve. Est-ce que l'enfant décrit la réalité ou exprime-t-il un fantasme? On n'accuse pas vraiment l'enfant de mentir, mais on ne le croit pas. On pense que l'enfant prend ses désirs pour des réalités. Et ça pose un énorme problème, car cette croyance amène à ne pas protéger les enfants qui ont pourtant besoin de protection quand ils sont victimes d'inceste. Je peux illustrer ce phénomène par un exemple vu dans ma pratique. Une petite fille se plaint d'agression sexuelle de la part de son père. Elle a 4 ans. Le rapport du médecin de l'hôpital émet des réserves sur la parole de l'enfant au nom du complexe d'Œdipe qu'elle est supposée vivre. Elle ne ferait pas bien la différence entre la réalité et ses fantasmes. On voit bien dans cet exemple comme le fantasme œdipien est mis en avant pour ne pas agir, ne pas repérer. Par ailleurs, certains pères incestueux se servent du complexe d'Œdipe pour inverser la culpabilité. C'est pour lui faire plaisir, disent-ils, parce qu'elle est amoureuse de son père. Je pense qu'il faut bien être conscient des risques considérables que fait courir cette théorie à des enfants victimes d'inceste, risque de ne pas être protégés. Donc, à partir du moment où il y a suspicion d'inceste, il est très important d'écarter toute référence au complexe d'Œdipe. Passons maintenant à la deuxième théorie problématique. Le deuxième concept dont nous allons parler aujourd'hui est le concept de syndrome des faux souvenirs. Alors, de quoi s'agit-il? C'est l'idée que l'on peut se remémorer un souvenir qui n'a tout simplement pas eu lieu. Ce concept est issu des travaux de la psychologue Elisabeth Loftus dans les années 70. Cette chercheuse a pu générer chez des cobayes des souvenirs créés de toutes pièces par ses soins. Les cobayes étaient pourtant convaincus que ces faux souvenirs étaient bien advenus. Donc, ça, bien sûr, ça existe. On peut créer artificiellement de faux souvenirs chez quelqu'un. Le problème est l'utilisation de cette découverte scientifique par un certain mathématicien Peter Freyd. En effet, Peter Freyd a repris les conclusions des travaux d'Elisabeth Loftus et a créé l'expression « false memory syndrome » ou « syndrome du faux souvenir ». Deux précisions s'imposent ici. Peter Freyd était mathématicien. Il n'avait absolument aucune compétence en psychologie. Par ailleurs, il a créé ce concept après qu'il ait été accusé d'inceste par sa fille. Ce contexte n'est tout de même pas anodin. Donc, à partir d'un constat scientifique, oui, on peut créer de toute pièce un souvenir chez quelqu'un, on a glissé vers la croyance, l'idée qu'un thérapeute pourrait induire des faux souvenirs d'inceste chez ses patients. Ce glissement-là, par contre, n'a rien de scientifique. Il n'a jamais été prouvé par le biais de travaux de recherche. Et d'ailleurs, l'existence du syndrome des faux souvenirs est aujourd'hui contestée par l'ensemble de la communauté scientifique. On va finir ce podcast avec une troisième théorie, peut-être la plus néfaste et la plus répandue des trois, le concept de syndrome d'aliénation parentale. Ce concept est très largement utilisé dans les tribunaux, les expertises psychologiques et les enquêtes sociales. Il conduit bien souvent au placement de l'enfant en foyer, voire à une garde exclusive chez le père. Alors de quoi s'agit-il? Selon le concept de syndrome d'aliénation parentale, en cas de séparation parentale, la mère pourrait manipuler son enfant et l'inciter à accuser le père de comportement incestueux afin d'obtenir la garde exclusive. Pour le recontextualiser, ce concept a été créé par Richard Gardner, un psychiatre américain ayant produit par ailleurs des écrits défendant des thèses pédocriminelles. Cette théorie est contestée par la communauté scientifique, car elle n'a aucune base scientifique. En effet, l'existence d'un tel syndrome n'a jamais été prouvée par le biais de travaux de recherche. Là encore, il s'agit d'une simple théorie élaborée par un individu. Si on y croit, on observe la réalité avec le prisme de cette théorie-là. Donc on se situe là encore dans la croyance et non dans la connaissance. Examinons maintenant plus précisément quel rôle joue ce concept, ce syndrome d'aliénation parentale, quand l'enfant parle. Quand l'enfant parle à sa mère ou à quelqu'un d'autre, la mère cherche souvent à protéger son enfant en demandant la garde exclusive. Laisser l'enfant aller chez le père alors qu'il y a suspicion d'inceste est un véritable déchirement. Par ailleurs, bien souvent, l'enfant ne veut pas y aller. Il pleure, il se plaint de cauchemars, développe des symptômes de mal-être, comme de l'énurésie, de l'irritabilité, des réactions psychosomatiques. Donc la mère constate que son enfant ne va pas bien. Elle se retrouve face à ce dilemme. Soit elle laisse l'enfant aller chez son père et se retrouve coupable du délit de non-assistance à personne en danger, sans parler évidemment de la culpabilité associée à un tel choix. Soit elle ne présente plus l'enfant au père et elle se retrouve coupable du délit de non-présentation d'enfant. Beaucoup de mères, face à ce choix cornélien, essaient dans un premier temps de se conformer aux décisions judiciaires. Elles demandent la garde exclusive et, en attendant de l'obtenir, elles ne laissent pas le choix à l'enfant que de voir son père. Mais face à la lenteur des procédures, face bien souvent à leur échec, face surtout à la souffrance de leur enfant, et souvent aussi sur les conseils de la police, elle décide de garder l'enfant, de ne plus le présenter au père. C'est là que les ennuis judiciaires commencent pour elle. J'ai déjà vu des mères avec un bracelet électronique menacées de prison ferme simplement pour avoir voulu protéger leur enfant. Certains juges, pour concilier principe de précaution et volonté de maintien d'un lien père-enfant, mettent en place des visites médiatisées pour les pères avec leurs enfants. Le problème, c'est que bien souvent, les professionnels exerçant dans ces lieux sont eux aussi, comme le reste de la société, influencés par le concept d'aliénation parentale, qui est très répandu malgré l'absence de validation scientifique. Donc, une pression est exercée sur les enfants et sur les mères pour que les visites se passent bien. Sinon, les professionnels menacent de rédiger un rapport favorable à la thèse d'une manipulation maternelle. Puis, si l'enfant accepte finalement de voir son père, pour protéger sa mère, le rapport préconise alors le rétablissement d'un droit de garde classique. Et oui, puisque ça se passe bien. Retour à la case départ. Donc, le lieu médiatisé, c'est très intéressant, bien sûr, pour différentes indications. Mais quand il y a suspicion d'inceste, ce n'est pas un format adapté. L'enfant victime n'a pas besoin que l'on répare le lien père-enfant. L'enfant a besoin d'être protégé. Ces deux approches sont incompatibles, clairement, en cas d'inceste. D'autres fois encore, le concept de syndrome d'aliénation parentale est utilisé par certains psys dans leurs expertises, là encore malgré son absence de validation scientifique. Ou alors l'avocat de la défense s'en sert pour plaider la cause de son client. Il suffit que le juge y croie lui aussi à la validité de ce concept pour finalement attribuer la garde exclusive au père ou bien ordonner un placement de l'enfant. Selon les données recueillies par la CIVIS, la commission inceste, 300 mères se sont signalées comme vivant cette situation. Pour ma part, j'ai déjà reçu des patients adultes ayant subi cette situation enfant, c'est-à-dire ayant été placés en foyer ou bien en garde exclusive chez le père après qu'ils aient parlé des faits d'inceste. Les dégâts sur le psychisme de l'enfant, sur la construction de sa personnalité, sont considérables. Troubles borderline, anorexie, addiction, tentative de suicide, et j'en passe. Donc, quand on voit les dégâts à long terme, on ne peut que se dire qu'en matière d'inceste, le principe de précaution doit primer, comme le soutient d'ailleurs Édouard Durand, le président de la commission inceste. Justement, la CIVIS, la commission inceste, parlons-en. Elle a fait des préconisations dans ce domaine. Suspension des droits de visite du père le temps de l'enquête, suppression du délit de non-présentation d'enfant en cas de suspicion d'inceste. Suppression de l'autorité parentale en cas de condamnation pour inceste. Ces préconisations vont vraiment dans le bon sens. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas appliquées sur le terrain, en tout cas à l'heure actuelle. Alors maintenant, récapitulons. Fantasme de l'enfant, intervention mal intentionnée d'un psychologue ou manipulation d'une mère. Tout est bon finalement dans ces trois théories pour remettre en cause la parole de l'enfant. Nier qu'il y ait pu y avoir inceste. On met en doute, a priori, avant tout examen plus poussé du dossier. Si on remet ces trois théories à leur juste place, elles n'ont aucun fondement scientifique. Il est donc 100 fois préférable, 1000 fois préférable, de simplement écouter les enfants sans a priori, sans préjugés, simplement accueillir la parole avec à la fois empathie et discernement. Alors ça veut dire quoi avec empathie et discernement? Accueillir la parole, prendre en compte le fait que l'enfant n'a pas de véritable raison de mentir, d'inventer ça, et aussi resituer cette parole dans un contexte plus global. Les symptômes de l'enfant, ses attitudes non verbales, ses dessins, ce qu'il met en scène dans ses jeux. Et oui, ce sont tous ces éléments qu'il faut prendre en compte, car l'enfant s'exprime souvent davantage avec ses dessins et ses jeux que par le biais de la parole. Vous l'aurez compris, face à ces trois théories délétères qui circulent, aborder la problématique de l'inceste sous l'angle de la libération de la parole, c'est complètement insuffisant. Rappelons tout de même que dans 70% des cas, les affaires d'inceste sont classées sans suite. Classées sans suite, ça veut dire qu'elles ne sont tout simplement même pas instruites et qu'elles ne donnent pas lieu à un procès. Elles sont directement classées par le procureur. Donc toute la société doit évoluer sur ce sujet. À l'heure actuelle, quand les victimes parlent, elles ne sont tout simplement pas crues. Dans la grande majorité des cas, le doute bénéficie à l'auteur de l'agression, pas à la victime, malgré le fait que les fausses allégations soient très rares. Donc, ce n'est pas la parole qu'il faut libérer, c'est plutôt l'écoute et la protection des victimes qui doivent être très clairement renforcées. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt pour continuer à explorer le sujet des violences sexuelles. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, prenez soin de vous.